Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Et oui, j'aurais pu faire les lectures érotiques de Josette, mais du coup, comme je m'appelle Charlie, je me suis dit que ça serait beaucoup plus simple. Alors, pour ce nouvel épisode consacré à la littérature érotique, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui fait partie d'une collection qui a été créée par la maison d'édition La Musardine et qui, du coup, évidemment, est publiée chez eux. Cette collection, si vous vous intéressez un petit peu à la littérature érotique, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est Oser 20 histoires. Et là, c'est le livre Oser 20 histoires de voyeur et d'exhibitionniste. Alors, celui-là, il est paru en 2013. Le principe des Oser 20 histoires est toujours le même. C'est des recueils collectifs de 20 nouvelles. Il y a un appel à texte qui est fait. Et ensuite, qui veut envoie son texte. La Musardine sélectionne les 20 meilleurs et publie le livre. Ceux qui ont envie, qui ont d'ailleurs, qui écrivent et qui aimeraient participer, en ce moment, depuis fin mars, il y a un appel à texte. C'est Oser 20 histoires de plan A3. Et vous avez jusqu'au dimanche 21 mai pour remettre vos nouvelles. Pour avoir toutes les infos, il suffit d'aller sur le site oser-vos-histoire-2-sexe.com. C'est le blog de Oser 20 histoires et là vous saurez tout. En attendant, moi j'ai décidé de vous lire des extraits de deux de ces nouvelles. On commence par une première nouvelle, c'est d'ailleurs la première nouvelle du livre. C'est Avis de recherche. Et c'est écrit par Anne de Bombeck. Anne de Bombeck, qui a déjà publié dans plusieurs Oser 20 histoires, notamment dans Oser 20 histoires de vampires et de sexe, Oser 20 histoires érotiques dans un train, etc., etc. Alors, elle n'a pas de site, Anne de Bombeck. Elle a un Facebook, anne.debombeck. Après, sur son Facebook, je vois qu'elle n'a pas publié depuis 2015. Donc, je ne sais pas si elle écrit encore ou pas. En tout cas, ça a vraiment été un bonheur de lire sa nouvelle. Je vais vous en lire un extrait là tout de suite maintenant. Sa nouvelle s'appelle Avis de recherche. On y va, c'est parti. Mes parents m'ont installé dans ce petit appartement sombre, ne sachant que faire de moi, tant je suis inapte au travail qu'à séduire un homme qui, à leur place, subvienne à mes besoins. Je suis loin en effet d'être un canon de beauté et je ne fais aucun effort pour m'améliorer. Je suis née avec un œil en moins et n'y suis pour rien. Je ne rate d'ailleurs pas une occasion de reprocher ce fâcheux handicap aux auteurs de mes jours. Je suis plutôt bien faite, mais j'ai gardé la brutalité des gestes d'une petite fille. J'attire des hommes que mon étrange visage excite, des pervers. Je les déteste et suis plus sensible au charme féminin. Borgne, j'ai une vision du monde nécessairement différente. Le sexe féminin est pour moi un grand œil, différent d'une femme à l'autre, comme un regard. Une camarade étudiante aux Beaux-Arts avait accepté que je la visite du bout des doigts. J'en garde un souvenir bouleversant. Mes doigts se promenaient dans ses chairs moites, palpitantes, pleines de recoins et d'aspérités, de bosses et de creux, de vagues, d'enclaves sombres et rugueuses, de gisements de cyprine. Un voyage au centre du monde. Courbet avait vu juste. Une autre amie, ivre, m'avait laissé coller mon œil à sa vulve pour me permettre de voir de plus près. Mon propre sexe ne m'intéresse pas. Je ne me masturbe jamais. Je me sens d'ailleurs asexuée, n'appartenant ni à un genre ni à l'autre. Mon premier petit ami, qui fut aussi le dernier, ne pouvait obtenir de moi ce qu'il désirait. J'acceptais de le sucer longuement, profondément et avec beaucoup d'application. Cette pratique me plaît beaucoup. Je trouve qu'elle relève davantage du jeu que de la sexualité véritable, comme la sodomie. Il qualifiait mon anus de deuxième œil, mon vagin lui étant interdit. J'aimais qu'il dédramatise mon handicap. Je l'autorisais à m'enculer pour les grandes occasions. Il pensait que je redoutais de perdre ma virginité et s'accommodait de la situation. Un jour d'été, il est parti avec une autre. De mon appartement donnant sur une rue étroite, je pouvais espionner mes voisins à loisir. Je ne faisais d'ailleurs plus que cela. J'avais des jumelles, des caméras, un appareil photo avec téléobjectif. Je songeais même à m'offrir un télescope. J'étais mieux équipée que le grand observatoire. Je réalisais le film de la vie de mon voisinage et restais dans l'obscurité afin de voir sans être vue. La voisine qui m'excitait le plus était une grande brune élancée. De ma chambre, j'avais une vue plongeante sur la sienne. Je voyais tout et elle me facilitait la tâche, vivant face au grand miroir de son armoire. Les films expérimentaux que je réalisais sur elle étaient les plus beaux. Elle avait de nombreux amants, un véritable défilé de queues en érection. Je pensais qu'elle se prostituait. Pourtant, je n'ai jamais vu quiconque lui glisser un billet. Peut-être était-elle tout simplement nymphomane. Comme moi, elle avait l'air d'aimer tout particulièrement se faire sodomiser. Quand sa fenêtre était ouverte, je pouvais l'entendre gémir, malgré les bruits de la rue. Je rêvais de pouvoir placer des micros dans son appartement pour tout savoir d'elle. Je ne vivais plus que par procuration. Pendant qu'elle s'absentait, je visionnais les vidéos. Elle non plus ne se masturbait pas, pas dans son lit en tout cas. Peut-être jouait-elle avec son trou sous la douche. Je ne pouvais pas le savoir et cette incertitude me rendait folle. Car j'étais folle. Si elle découvrait qu'elle était filmée en permanence, je risquais des ennuis. Bien sûr, je gardais les précieux clichés et vidéos pour mon usage personnel, mais j'allais trop loin. Elle était devenue mon addiction. Une nuit, elle était rentrée avec deux grands types très imposants. Je n'en croyais pas mon œil. Le premier, moustachu, sortit sa bite en érection devant le visage de ma voisine, assise sur son lit. Elle commença à le sucer goulûment. L'autre prenait des photos. J'étais éberluée. Je sentais l'excitation monter en moi. J'avais envie de me caresser, mais résistais. Vilaine, la cyprine coulait le long de mes jambes. Il enfonçait son sexe loin dans sa gorge. La fenêtre était malheureusement fermée, je ne pouvais donc pas les entendre. Que j'enviais ce moustachu. L'homme à l'appareil photo semblait leur donner des ordres. Elle arrêta alors de pomper le moustachu pour débraguer le photographe. Il continuait de la viser de son objectif pendant qu'elle aspirait l'énorme verge avec application. Pendant ce temps, le moustachu se déshabillait. Ma belle voisine abandonna son œuvre, ôta ses vêtements et s'installa à genoux sur une chaise, les seins contre le dossier, face au miroir de la grande armoire. Elle s'écartait les fesses avec ses mains. Ainsi, je vis tout de son intimité. Cette image était splendide. La lueur d'une faible lampe l'éclairait. Si seulement j'étais un homme, j'aurais pu lui plaire. Moustachu s'accroupit pour placer son visage devant le sexe de ma belle brune. Il la léchait avidement. La moustache devait la chatouiller. Je frémissais à cette idée. À deux mains, il écartait le cul de la jeune femme et semblait, avec sa langue, ne rien manquer de ses deux orifices. Du point d'observation où je me trouvais, il paraissait boire son jus et il lui titillait l'anus, cette rose qui s'épanouissait sous son doigt. Le photographe shootait toujours, la queue à l'air, bien raide. Il posa son appareil photo pour sortir un petit tube de sa poche, du lubrifiant sûrement. Moustachu cessa la dégustation. J'eus le temps d'admirer le sexe bien rasé de ma voisine, grand ouvert, offert au regard des deux hommes et au mien. À ma grande surprise, elle échangea sa place avec le moustachu. Le spectacle était soudainement plus décevant. Ses gros testicules pendaient, il se branlait d'une main. Ses fesses étaient très poilues ainsi que son dos. Diantre, pourquoi les choisissait-elle toujours si repoussants, elle si belle, si délicate, si fragile? Elle se saisit du tube et avec vigueur enduisit de lubrifiant l'anus de moustachu. Son doigt, happé, disparaissait dans le cul poilu. Elle avait l'air de s'amuser. Pendant qu'elle fouillait le grand moustachu avec deux doigts, elle léchait goulûment le gland du photographe. L'homme la saisit par les cheveux pour l'entraîner sur le lit, laissant moustachu fesses écartées face au miroir. Celui-ci pouvait ainsi voir leur reflet sans tourner la tête, attendant son heure. Il serait enculé sans état d'âme. Le photographe baisa ma belle amie en levrette, en envoyant sur ses fesses des claques rythmées, ce qui n'avait pas l'air de lui déplaire. Tous deux, de profil, étaient gracieux. Elle se cambrait le plus possible. Ses petits seins bougeaient en cadence. D'une main, il s'agrippait à ses cheveux, de l'autre, il la fessait. Elle semblait en transe. Le photographe la plaqua sur le ventre. Elle était si belle dans sa posture de soumise au désir de cet homme. Il reprit son appareil photo au moment où Moustachu, qui bandait toujours, quitta son trône pour venir enculer son offrande, laquelle attendait avec dévotion. Sa queue glissa très facilement. Elle serrait ses jambes pour mieux l'emprisonner dans l'orifice déjà très étroit. Il faut dire qu'elle en avait l'habitude, je pouvais en témoigner. Moustachu se positionnait étrangement pour que le photographe puisse capter la scène dans les moindres détails, c'est-à-dire l'anus assailli, défoncé, en serrant l'énorme queue. Elle s'accrochait au barreau de son lit. Un lit à barreaux, encore un truc de vicieuse. J'aurais voulu être à la place du photographe pour voir de plus près comment le cul gourmand de ma voisine accueillait le chibre de ce géant. Abandonnant son appareil photo, le photographe se joignit à eux en glissant son gland dans le cul du moustachu, qui ne broncha pas. Bien au contraire, il continuait à s'occuper des arrières de ma voisine lubrique. Je regrettais de ne plus très bien la voir sous ses deux satyres. Comment respirait-elle dans cet enchevêtrement? Ils avaient l'air d'une pièce montée. La configuration du croque-en-jambe changea enfin. La brunette chevaucha le photographe allongé sur le dos, pendant que Moustachu recommençait à lui chatouiller l'anus avec sa langue. Elle était déchaînée. On aurait cru un succube échappé des enfers pour se gonfler de testostérone brute. Moustachu, qui décidément se passionnait pour l'anus béant de la créature infernale, y enfonça à nouveau sa queue. Visiblement, elle n'attendait que ça. Prise en double par les deux serres en rut, elle m'apparaissait moins sensible et vulnérable qu'auparavant. C'était elle qui, insatiable, maîtrisait la situation. Elle renversait la nuque en arrière, griffait, accrochait ses ongles à la chair du photographe. Ce dernier manquait tout de même à son devoir. Heureusement, j'étais là et filmais tout. Je me demandais où les deux foutres allaient jouir. L'artiste qui perdait une scène capitale en privilégiant son plaisir personnel ne manquerait sans doute pas le dernier acte, celui de la jouissance. Je ne me trompais pas. Moustachu se retira de l'anus du succube, qui se laissa glisser sur le côté pour libérer le photographe, lequel se releva et se remit au travail. Assise sur la chaise devant le miroir, elle ouvrit grand la bouche et Moustachu gicla au fond de sa gorge. Elle avait l'air d'aimer cela. Elle se léchait les babines comme une bête. Moustachu se mit à genoux devant son maître afin d'être nourri à son tour. Ils se rhabillèrent rapidement tous les trois et filèrent. Peut-être l'emmenait-il dîner ? J'étais étonnée qu'ils partent dans la précipitation sans même prendre le temps de se reposer. Je me retrouvais donc seule. Bouleversée, j'avais même envie de faire l'amour. Un instant, je songeais à rappeler mon ex, mais n'en fis rien. J'étais déjà excitée à l'idée de revoir, le lendemain, la vidéo de la scène de luxure offerte à mon regard vicieux et attentif. Je la guettais. J'avais hâte qu'elle rentre seule, hâte de la voir pour moi, en tête à tête. J'étais amoureuse d'elle. Mais elle ne revenait pas. 6 jours passèrent. Je ne mangeais plus. Je ne sortais plus de chez moi et attendais. Où était-elle ? Partie en vacances avec les deux barbons ? J'en doutais, elle n'avait rien emporté avec elle, pas même une veste. Devais-je prévenir la police ? Mais comment expliquer à la police la raison de mon inquiétude ? J'étais perdue. J'étais peut-être la seule à savoir qu'il se passait quelque chose d'anormal. Était-elle séquestrée ? Non, elle avait l'air d'être partie de son plein gré. 10 fois j'avais revu la vidéo des ébats. Elle s'était habillée en vitesse, sans même remettre ses sous-vêtements, et avait suivi les deux hommes. Elle était pressée, mais pas forcée. 3 jours plus tard, je reçus une convocation de la police. Voilà, je laisse planer le mystère pour connaître la suite de cette nouvelle. Je vous invite à lire « Oser 20 histoires de voyeurs et d'exhibitionnistes ». C'est paru aux éditions de La Musardine. Et puis, ben, je vous ai promis de vous lire aussi un autre petit extrait. Donc, on va changer totalement d'univers. C'est ce que j'adore d'ailleurs dans ces recueils, c'est que vu que c'est des auteurs complètement différents, et ben, vous avez une même thématique qui est traitée d'une manière qui n'a rien à voir. Alors là, la nouvelle que je vais vous lire, c'est Laure. Elle s'appelle Laure. Elle est écrite par Julie de Russie. Julie de Russie qui publie également assez fréquemment dans les Hauts et Vingt Histoires. D'ailleurs, elle a un site, hein, juliederussie.com, si vous voulez en savoir plus sur elle. Et sur les réseaux sociaux, eh bien, elle est présente sur Facebook et sur Twitter. Vous tapez Julie de Russie et vous allez la trouver. Allez, petit extrait de Laure de Julie de Russie. Laure. Lorette, Loretta, la bouche trop grande, le nez trop long, les seins trop petits, mais le plus beau cul qu'il m'ait été donné de contempler. À moins que dans le prisme de mon premier amour, de mes presque 15 ans, je ne l'aie idéalisé, jusqu'à en faire la courbe parfaite qui a hanté mes nuits toutes ces années. Pour ses amants, c'était toujours Laura. Elle n'aimait pas son prénom. La seule chose que lui avaient laissée ses parents avant de mourir. Cela et de l'argent, des montagnes d'argent à ne savoir qu'en faire, dont elle ne devait profiter qu'une fois majeure. Elle habitait chez sa grand-mère, qui était aussi la mienne. Laure était ma cousine, de 3 ans mon aînée, 3 ans qui nous séparaient comme un fossé, 3 ans qui, le plus souvent, me rendaient invisible à ses yeux. J'étais comme le chien de la maison, Ubu, le teckel au poil roux, qui parvenait parfois à se rouler en rond sur ses genoux, mais n'obtenait jamais d'elle la moindre caresse. Habitué à cette déconsidération, je n'avais, à vrai dire, jamais songé à m'en soucier. Jusqu'à cette année-là. J'étais arrivé en juillet, débarqué par mes parents, qui, selon leur habitude, s'en allaient vers d'autres cieux. J'avais beau avoir grandi, j'avais toujours un peu peur de ma grand-mère, qui avait tissé dans la maison un réseau de règles strictes auxquelles je devais obéir sous peine d'être confiné jusqu'à nouvel ordre. Il fallait se taire à table, fermer tous les boutons de sa chemise, même au plus chaud de l'été, et monter par l'escalier de service pour ne pas salir le tapis du grand escalier. Le jardin, c'était la liberté. 3 hectares de luxuriances vertes que même le jardinier, qui ne venait que le matin, avait renoncé à domestiquer. Ma grand-mère ne s'aventurait jamais plus loin que les citronniers de la terrasse. Une fois passé le grand chêne, à l'abri des ombrages, c'était pour moi la joie toujours renouvelée des courses folles dans les herbes, des arbres escaladés, des envols de balançoires. Il suffisait de revenir le soir, à 7 heures précises, pour le dîner, l'air à peu près présentable. Laure aussi aimait le jardin. Pour elle, qui subissait à longueur d'année les règles étouffantes de ma grand-mère, c'était l'espace vital où elle renaissait enfin. Elle, qui était l'incarnation de la sagesse, en robe claire sous cardigan bleu marine, queue de cheval plantée haut sur le crâne et bulletin constellé de félicitations, elle avait dissimulé dans la cabane de notre enfance un short en jean et une collection de débardeurs. Vêtements qu'elle enfilait dès qu'elle gagnait le jardin. Nous errions dans la verdeur, chacun de notre côté, habitués à la solitude. C'était ainsi depuis des années, et d'un accord tacite, nous prenions soin de taire tout ce que ma grand-mère n'avait pas besoin de savoir. La vie secrète du jardin, qui existait depuis toujours, et qui allait prendre cet été-là un sens nouveau pour moi. Lorsque je la revis, le soir de mon arrivée à la table du dîner, je ne fis pas spécialement attention. Elle était pareille à elle-même, engoncée dans son cardigan, les paupières baissées sur son assiette, silencieuse. Je mangeais ma soupe et allais me coucher en pensant au jardin qui m'attendait. J'avais 14 ans, la voix qui muait et des boutons sur le menton. L'adolescence a son plus grand désastre. Je connaissais Laure depuis toujours, mais rien, durant toutes ces années où je l'avais vue grandir, ne m'avait préparé au superbe mirage qu'elle était devenue cet été-là. L'été de ses 17 ans, le dernier été que nous avons passé ensemble, quelques mois avant qu'elle ne prenne la poudre d'escampette. Je ne sais si ce fut le hasard ou un désir inconscient. Peut-être, pendant le dîner de la veille, j'avais perçu malgré tout quelque chose de sa féminité éclose. Peut-être, j'allais vers elle. L'heure de la liberté avait sonné après le déjeuner. Il faisait beau. C'était un été ruisselant de soleil. Je redécouvrais le jardin à la fois familier et différent, les arbres mille fois vus, les rameaux s'entrelaçant, les sentiers moussus, lorsque mes pas me conduisirent vers la petite cabane. Laure était là. Elle venait de sortir du cabanon poussiéreux son short et son débardeur pour se changer au soleil, et elle les jeta par terre. Je crois bien que je l'avais déjà vu faire autrefois et que cela ne m'avait pas marqué, mais ce jour-là, c'était différent. Et je dus en avoir une conscience aiguë parce que ma première idée, ma seule idée, fut de me dissimuler et de la regarder. D'un geste impatient, elle fit tomber d'abord le large cardigan bleu marine. L'élastique qui retenait sa queue de cheval, elle l'arracha presque. Elle grimaça parce que, probablement, elle avait perdu quelques cheveux au passage. Et la luxuriance de sa chevelure, où se mêlaient l'or, la paille et le fauve, se répandit sur ses épaules. Et puis ce fut la robe. Dessous, elle était longue et blonde, presque nue, avec ses petits seins qui pointaient dans la brise, ses jambes fines et son ventre bronzé sur lequel le blanc de la petite culotte tranchait. Quand elle se pencha pour attraper son débardeur, je frémis devant la rondeur admirable de son cul. J'avais presque 15 ans, je n'avais jamais embrassé une fille et mes hormones m'affamaient de désir. Je fus sur le point de jouir sur le champ. Elle s'engagea dans une allée et je la suivis. Que pouvais-je faire d'autre? Elle allait d'un pas tranquillement déhanché, pieds nus sur la mousse des allées, et je la suivais de loin sans jamais la quitter des yeux. Elle se dirigea vers la lisière du jardin et s'arrêta à la porte de fer rouillé par laquelle le jardinier rentrait dans la propriété. Là, elle sortit de sa poche une clé qu'elle s'était procurée par je ne sais quel moyen et elle ouvrit la porte. Un homme attendait là. Il était grand, brun, plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé que moi, un adulte en somme, et même plutôt mûr. Il la prit dans ses bras, agrippa sa fesse dans un geste brutal que je n'aurais osé imaginer et l'embrassa voracement. Elle se laissa faire, se collant à son grand corps. J'étais au comble du désir et de la jalousie. Enfin, s'arrachant à cette étreinte féroce, elle se baissa pour caler un morceau de bois entre le mur de pierre et la porte de fer. Il en profita pour lui remettre la main aux fesses, comme je l'aurais fait si j'avais été à sa place, moi. Prenant la main de l'homme qui venait de la peloter avec ardeur, elle l'entraîna dans le jardin. Je me lançai à leur suite. J'étais aimantée. Il fallait que je voie. Je n'essayais même pas de tourner les talons. Je ne pensais à rien. Il me semblait que les brindilles ne cessaient de craquer sous mes pieds, mais ils ne se retournèrent pas. L'or filait dans la verdure d'un pas précipité, se baissant pour éviter les branchages, courant presque. Lui semblait la poursuivre, sans pouvoir la rattraper, et moi, dernier maillon de la chaîne, je peinais derrière eux. Le théâtre des étreintes de ma cousine était une petite clairière noyée de soleil. Je reverrai toujours le regard de défi qu'elle lança vers lui et vers moi lorsqu'elle se retourna, essoufflée, échevelée, belle. Il ne s'arrêta même pas. Il se pencha vers elle, la poussa d'une main et la plaqua contre l'arbre le plus proche, un marronnier. Je ne vis pas qui, de lui ou d'elle, fit tomber le short et la culotte de coton blanc par terre. Elle avait noué ses jambes nues autour de lui. Il avait baissé son pantalon et je ne voyais plus que ses fesses musculeuses aller et venir tandis qu'il la clouait à l'arbre et qu'elle semblait s'incruster dans l'écorce, gémissante, frémissante. Je m'étais agenouillée derrière un buisson, dans l'ombre. Je jouis sans même m'être touchée, dans mon pantalon. Les cris de ma cousine allaient crescendo. Un grognement sourd de l'homme y répondit. Ils se laissèrent glisser par terre. Et ce fut la première vision que j'eus de son sexe. Grand ouvert, perlé, à peine déserté par le membre de l'autre qui bandait encore à moitié dans le gazon. Le désir me reprit aussitôt. J'aurais voulu me noyer tout entier dans ce sexe béant. Il me semblait, malgré la distance, que je pouvais sentir son odeur. Dans un geste inconscient, je déboutonnais mon pantalon, glissais ma main dans mon caleçon humide et collant et je me mis à me branler frénétiquement en fixant l'obscure fenêtre ouverte entre les cuisses de ma cousine. Quand elle se leva et s'étira, nue sous son débardeur blanc, je vis ses poils, plus sombres que sa chevelure. Quand elle se pencha pour récupérer son short, je vis son cul, rondeur parfaite et blanche sur laquelle l'écorce avait laissé son empreinte. Et je vis, sur sa fesse gauche, une fleur tatouée, une violette qui s'épanouissait là et descendait sur sa cuisse. Ils échangèrent quelques mots que je n'entendis pas. J'achevais de me vider de plaisir. Puis ils se séparèrent. Lui s'en retourna par le chemin d'où il était venu. Elle s'enfonça dans le jardin, passant tout près de moi sans me voir. Je demeurai là longtemps, perdu dans mes pensées, revivant toujours la scène dont j'avais été le témoin volontaire. Voilà pour découvrir la suite de cette très jolie histoire. Elle est vraiment très chouette. Donc c'est la nouvelle, c'est L'Or, c'est écrit par Julie de Russie. Eh bien, encore une fois, je vous invite à lire Oser, 20 histoires de voyeurs et d'exhibitionnistes. C'est paru aux éditions La Musardine. Et du coup, si vous voulez vous l'offrir, eh bien, allez faire un tour sur le site lamusardine.com. Et pour connaître toute l'actualité de Julie de Russie, c'est sur son site juliederussie.com. Eh bien, voilà. Voilà, c'est terminé la lecture érotique pour aujourd'hui. La suite, ce sera la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une douce journée ou une douce soirée. En bref, vous pouvez reprendre une activité normale. Et puis, pour retrouver tous les précédents podcasts de lectures érotiques, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site charlie-liveshow.com. Des bisous et à très vite. Ciao, ciao, ciao.